Bienvenue à notre podcast Côté sombre. Je m'appelle Jennifer.
Et je suis Colin.
Je vous parle de crimes.
Et je fais mon possible.
Hello!
Bonsoir, Jennifer.
Pien, 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 pien. 5000 abonnés. Sur la page du groupe privé Facebook.
Oh my God, Jennifer, comment ça?
J'en reviens pas. On a commencé, on avait... je sais plus. Merci. On est parti de zéro. Puis là, on a 5000 abonnés. J'ai fait un post, justement.
C'est fou débile. Jennifer.
Oui, je viens juste de faire un post pour remercier les gens puis pour dire à quel point ce groupe-là, c'est comme ma deuxième famille. Je me connecte sur Facebook juste pour aller leur parler puis aller voir qu'est-ce qui s'est fait sur la page. Là, c'est sûr qu'avec 5000 personnes, je fais mon possible pour aller répondre à tout le monde, mais tu sais, je peux pas le faire autant qu'avant. Ce qui est une... J'allais dire ce qui est triste, mais en même temps, c'est juste que la communauté grossit, puis tout le monde, moi, j'ai appris à connaître du monde, mais les gens, il y a des amitiés qui se sont créées aussi, tu sais, je veux dire... Oh, 5000 abonnés. Merci, gang. Puis là, c'est ça, on parlait de fêter ça, on a des petites idées pour fêter ça, peut-être. On pourrait faire une soirée quelque part à Montréal. Pas un show, une soirée pour chiller, pour parler.
I don't know, Jennifer.
Tu veux pas aller fêter avec nos sombreux?
Mais oui. Pourquoi si vous si êtes intéressé, I don't know. On devrait juste faire un show à place.
Ben là, c'est parce qu'il faut que j'écrive une autre chose. Ces temps-ci, j'étais un petit peu occupé, là, tu sais. Là, je veux dire, je veux bien, mais là, c'est peut-être... Moi, je veux fêter. Je veux fêter. Qui veut venir fêter avec moi? Je resterai ici.
Ben non.
Je vais aller fêter avec eux autres, moi.
Je vais faire la fête avec vous, là. Chris.
Colin est toujours partant pour faire la fête.
Mais oui.
Mais oui.
Pas trop tard, là.
Ouais, là, il est tard, c'est ça. Ouais.
Oh my God.
Stéphanie Vandelac, je suis en train de boire un gin tonic.
Mm-hmm.
Merci pour le Tanqueray. Tanqueray?
Tanqueray gin.
Patreon, on a enregistré un épisode avec Stéphanie. Elle est venue s'asseoir ici, sur le plancher de notre salon.
Mm-hmm.
Quel épisode!
Mm.
Quel épisode!
Fou de Bill.
Oh, c'était bon, on a eu du fun, on a eu... T'es choqué aussi, c'était une histoire de débile quand même. Là.
Non, pour vrai, c'était... T'as gardé un banger pour Stéphanie.
Ben, ça se passe en Floride en plus, tu sais.
Fait
qu'on a vraiment hâte de vous présenter ça. C'est presque prêt, Colin. Presque fini le montage. Je veux dire, en tout cas, au moins, t'as la moitié de fête.
Plus que la moitié.
Bon.
Mm-hmm.
Puis gang de Patreon, on s'excuse que cette vidéo-là soit en split screen. Ça nous arrive des fois, quand vous voyez qu'une vidéo est en split screen, c'est parce que... C'est pas la fin du monde, c'est bien pareil.
Quelle vidéo?
Là.
Le vidéo avec Stéphanie?
Non, celui-là qui va sortir, parce que, écoute, on n'aura pas le temps. Là. Quand c'est en split screen, c'est parce que Colin de Bin, qu'on a manqué de temps, mais qu'on voulait vous sortir l'épisode à temps. Fait que... T'es-tu prêt?
Pas en tout.
Oh. Prêt, pas prêt? J'y vais. L'histoire d'aujourd'hui se déroule en 2010 en banlieue de Toronto,
oh.
Canada.
Dans la province de Ontario.
Markham est une ville située juste au nord de Toronto, à environ 35 km de la tour du CN. C'est vraiment pas loin. Au recensement de 2021, Markham comptait 338 503 habitants. Selon Sunny Communities, Markham serait l'une des villes les plus sécuritaires.
Petit à côté,
mm-hmm.
Même si c'est 35 km de la tour CN, ces 35 km sont, selon moi, les plus pénibles que tu peux vivre dans le pays de Canada.
Ouais, honnêtement, c'est vrai que le trafic à Toronto, là, c'est...
C'est pas une joke.
C'est comme x10 de Montréal.
C'est sauvage.
C'est quelque chose.
Non, mais wild.
Ouais.
Épouvantable.
Merci.
Décourageant.
Ouais.
Continue.
Fait que c'est ça, je disais que ce serait une des villes les plus sécuritaires. Le quartier parfait pour élever une famille. J'imagine que c'est pour cette raison que la famille Pan avait décidé de s'y installer. Han Pan a fui le Vietnam à 26 ans par bateau pour se rendre au Canada à la fin des années 70.
Holy fucking shit.
Holy shit.
Par bateau, là.
Ben, c'est parce facile, que. Là. Ben, c'est ça, c'est un voyage qui était loin d'avoir le confort d'une croisière. Là. Il y a plusieurs réfugiés vietnamiens qui n'ont pas survécu à ce terrible périple.
Holy moly.
C'était pas des conditions, là. C'était genre, ils se foutent le plus possible d'un bateau puis ils sacquent leur camp, là. Tu sais, je veux dire, c'était terrible. Han Pan, lui, il était déterminé à survivre. Han est arrivé à Scarborough sans argent.
Oh, Scarborough.
Oh, Scarborough.
Scarborough.
Scarborough. Scarborough. Sans argent. OK, je vais recommencer, je vais essayer d'être sérieuse. Han est arrivé à...
Scarborough.
Scarborough, sans argent.
Scarborough. Not Scarborough, c'est pas comme Purborough, it's Scarborough.
Sans argent, puis il savait pas parler un mot d'anglais. Okay? C'est une fois rendu au Canada qu'il a fait la rencontre de Bic. Les deux sont devenus amoureux fous. Le plus drôle, c'est qu'ils s'étaient déjà vus au Vietnam, okay? Mais ils s'étaient jamais vraiment parlé, mais ils savaient qu'ils connaissaient de vue, genre. Les deux se sont sauvés de leur pays à peu près en même temps. Ils se sont retrouvés plus d'une dizaine de milles de kilomètres plus loin.
My God!
Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants.
Quelle histoire d'amour!
Ils travaillaient ensemble dans une usine de voitures. Ils travaillaient comme des forcenés. Okay, le couple n'avait...
Quelle marque?
Je sais pas. Le couple faisait pas beaucoup d'argent. Il y avait un logis très modeste dans un quartier assez pauvre de Toronto. En juin 1986, Han et Bic ont eu leur premier enfant. Une petite fille qu'ils ont appelée tendrement Jennifer.
Ah, le doux bébé Jennifer.
3 ans plus tard, ils ont eu un autre doux bébé qu'ils ont appelé Félix.
Mm.
Ayant grandi au Vietnam, Han et Bic ont élevé leurs enfants comme eux avaient été élevés, à la vietnamienne. Là, je ne suis pas en train de dire que c'est encore que c'est le cas dans toutes les familles vietnamiennes, mais eux, venant d'une certaine époque aussi, là, je veux dire, ils sont nés dans les années quoi, 40-50, tu sais. Fait que, tu sais, ils ont été élevés rough à la vietnamienne. Alors, pour eux, là, l'image de la famille était très importante, puis le père, généralement, c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui décide. Les Pan étaient très stricts. T'as-tu déjà entendu parler du terme « tiger parenting » ?
Oui, absolument. Puis c'est comme un style de parenting qui suggère beaucoup de pression sur tes enfants. D'avoir de la succès, puis...
Mais c'est justement pour s'assurer qu'il y ait beaucoup de réussite dans la vie puis qu'ils réussissent bien, tu sais. C'est ça le but derrière ça, mais c'est pas facile, justement, la pression, comme tu dis. Fait que c'est un style de parent qui est super sévère. Encore une fois, c'est dans un but que l'enfant réussisse bien dans la vie. Il y a des bonnes intentions derrière ça. Désolé pour les bruits, c'est Lady Bianca qui ne se comporte pas bien. Franchement, là, pas fière d'elle. C'est le style de parent qui demande aux enfants là, d'étudier chaque jour, de performer à l'école, mais aussi en musique, aussi en sport. Le parent tigre, tiger parenting, il vise l'excellence, rien de moins. C'est pas, t'as pas 90, t'as 100%. Tu sais? T'as pas A, t'as A+. C'est l'excellence, rien de moins. Fait que,
pas juste A+. Il faut être comme le premier dans ton classe. Là.
C'est ça. Fait que, évidemment, ça met beaucoup de pression. Puis il faut pas oublier que les enfants ça, c'est moi qui parle. Les enfants, ils ont besoin de jouer. C'est important de jouer, de vivre sa vie d'enfant.
Oh yeah.
Fait, mais eux, dans leur horaire, là, puis je parle d'eux, je parle pour la famille Pan en ce moment, puis ce style de parents-là, il n'y a pas de place au jeu. On n'y est pas dans la vie. Pas, c'est vraiment, toutes les heures sont consacrées à faire quelque chose de productif, que ce soit d'apprendre le piano, de pratiquer un sport, d'étudier. Tout le temps est calculé comme ça. Fait que comme les Pan voulaient le mieux pour leurs enfants, Anne et Bic, ils ont passé des années à sacrifier puis à travailler fort. Je veux juste dire que Anne, c'est le père, Bic, c'est la mère, OK? Mm-hmm. Fait qu'ils se sont sacrifiés pendant des années. Ils ont travaillé super fort. Bic rêvait de retourner au Vietnam. Elle n'était pas retournée dans son pays natal depuis qu'elle était arrivée par bateau à la fin des années 70. Mais elle va vivre son rêve de retourner au Vietnam juste quand les études supérieures de ses enfants seront terminées. Fait que pas juste l'école secondaire, là, c'est quand ils auront terminé leur université. Yeah, là, t'sais.
Fucking solide carrière. Done, finished. Mon job comme parent est terminé. Ils sont des adultes avec des jobs éduqués. Fuck off. Là, je peux vivre ma vie encore.
Exactement. Donc, les enfants avant tout. Au début des années 2000... Ils avaient amassé assez d'argent pour s'acheter une belle maison dans un beau quartier de Markham. Fait que là, ils arrivent avec rien dans les poches. Ils parlent pas un mot d'anglais. Ils travaillent comme des hosties débiles pendant des années. Il n'y avait pas une scène, là. Mm-hmm. Ils se ramassent un cash, OK, pour acheter une maison. Ils déménagent dans un beau quartier, pas loin de Toronto.
Les banlieues de Toronto, c'est pas donné, là. C'est fucking cher.
Puis en plus, ils conduisent une Mercedes puis une Lexus.
Oh, tabarnak! Ils ont de la goût en plus. C'est des beaux chars, ça.
Mais puis ça coûte une petite beurrée, là. Fait que, tu sais, ils ont quand même. Tu sais, tout leur sacrifice qu'ils ont fait, là. C'est comme. C'est
fortune, ça.
Puis Bic, là, elle s'achetait même pas des nouveaux vêtements. Tout l'argent, là, c'était pour ses enfants, puis tout. En tout cas, gars, ils ont partir de zéro, puis gagner une petite fortune pour bien élever leur enfant dans un meilleur quartier. Donc, Bon, là, c'est sûr que les Pan étaient encore plus sévères avec leur fille Jennifer parce que, ben, c'était la plus vieille. Puis, il fallait qu'elle montre l'exemple à son jeune frère. Mais aussi, c'était une fille. Fait que c'est plus difficile. OK, pour elle de faire... En fait, elle ne pourra pas faire ce qu'elle veut pantoute, mais ce que je veux dire par là, c'est que ils étaient plus sévères avec elle, et parce que c'était une fille, et parce que c'était la plus vieille de la famille.
Mmh.
Fait que... C'est ça que je dis ici. Vu de l'extérieur, il y avait parfois de l'injustice. Jennifer a commencé le piano puis le patinage de vitesse à un jeune âge. Ce sont les parents qui ont choisi pour elle. Hein. Leur choix était stratégique. Ils ont choisi le patinage de vitesse puisqu'il s'agit d'un sport individuel parce qu'ils désiraient que leur fille se démarque seule et non au sein d'une équipe.
Je comprends totalement cette mentalité-là parce que j'ai des tendances perfectionnistes puis d'avoir besoin de mettre beaucoup, beaucoup de confiance dans ton succès, dans quelqu'un d'autre. C'est pas facile, là.
C'est vrai.
C'est pas vrai. Facile. Il faut avoir une fucking solide équipe.
Mm-hmm.
Puis c'est pas toujours le cas, là.
pratiquer le passage à vitesse. Jennifer n'avait pas le droit de jouer avec ses amis après l'école. Elle n'avait pas le droit de choisir ses propres activités parascolaires. Je l'ai dit, le piano puis le passage de vitesse, ce sont ses parents qui ont choisi pour elle. Elle devait étudier, pratiquer en tout temps. Quand elle n'était pas à l'école, finalement. Pas de temps pour jouer. Bic était une mère réconfortante, tandis que Han s'occupait de la discipline. Il était moins sévère envers Félix. Félix avait droit à l'erreur, mais pas Jennifer.
Oh, really?
Pour le patinage de vitesse, les parents visaient les Olympiques. Là.
Oh, yeah. C'était comme,
Moins.
De moins, merci.
Elle s'entraînait jusqu'à 10 heures le soir. Elle arrivait à la maison puis devait étudier jusqu'à minuit. C'est pas l'horaire qu'elle désirait, mais elle n'avait pas le choix. Lors d'une des pratiques, elle s'est blessée. Elle s'est déchirée un ligament dans le genou. Elle a dû dire adieu au patinage de vitesse. adieu aux Olympiques. Puis ben au lieu d'être dans la compréhension et dans l'empathie, les parents étaient déçus. Ils voyaient ça comme un échec.
No way!
Ouais.
Oh! Ouais. C'est cheater, ça. Oh non, j'aime pas ça.
Mais en même temps, là, je sais qu'on peut voir ça comme c'est terrible, mais c'est une autre culture, une autre époque.
Mais le petit fille doit être dévasté, là.
Mais c'est du tough love. Tu sais, Nell, pas à ce point-là, puis pas côté performance, mais Nell... c'est une européenne de l'Est.
Mais c'était sûrement ça rêve aussi de passer aux Olympiques. T'sais. Quel kid aimerait pas ça? Puis tout à coup.
Boum. C'était pas sa passion, elle, là. Adolescente, Jennifer n'avait pas le droit de se maquiller, pas le droit d'avoir une vie sociale, encore moins d'avoir un petit copain. Elle était pas heureuse. Elle est devenue déprimée, puis lui-même arrivé de se couper les poignets.
Oh! Oups! J'aime pas ça.
Ses notes sont aussi passées de A plus à C. Fait que là, un A, c'était pas acceptable pour son père. Fait qu'imagine un C. Okay. Fait que pour éviter d'être puni trop sévèrement ou encore d'être la honte de ses parents, Jennifer a mis du correcteur, du liquid paper, puis elle a remplacé les C par des A. Après ça, elle a utilisé un photocopieur pour aller scanner son report card, son bulletin.
OK, parce que j'aurais dit, c'est juste du papier liquide, là, c'est pas assez.
Mais non. Son père n'a rien vu.
No shit.
Puis Jennifer était tellement stressée de remettre le faux bulletin à son père, là, mais quand elle l'a vu, OK, c'est aussi facile que ça, le Bernet. Ben, elle a décidé que c'est ça qu'elle continuera de faire dorénavant. À partir de maintenant, Jennifer va mentir, puis mentir pendant des années. À ses parents. Jennifer est tombée amoureuse d'un élève plus vieux à l'école. Ce gars-là s'appelait Daniel Wong. C'était un bad boy qui vendait du pot.
Oh tabarnak, qui vendait du pot, le gars-là. À quel âge?
16-17 ans.
Ouh! Moi, j'étais dans la gang des vendeurs de potes à cet âge-là, pis c'est pas bon, ça, man. Devrais pas faire ça, les jeunes. Non, c'est pas bon, ça.
Bon, fait que là, on s'entend que c'est un gros contraste avec Jennifer, qui avait même pas le droit de rien faire, là. Les deux vont se... Écoute bien ça, OK? C'est important, là. Les deux vont se fréquenter pendant une dizaine d'années. Dizaine d'années on and off. Au début de leur relation, Jennifer avait genre 14 ans, junior high, OK? Puis Daniel avait un an plus vieux qu'elle. Fait qu'au début, il avait 15-16 ans, tu sais, c'est ça. Ça n'a pas été difficile pour les parents de Jennifer de la surprendre en train de lui parler au téléphone parce que dans le fond, quand elle était supposée de se coucher, ben ils l'entendaient parler. Fait qu'ils ont su qu'elle avait un petit copain. Aussi, parfois, elle sortait en douce le soir puis mettait un oreiller sous ses couvertures. Tu sais, comme faire semblant qu'elle était dans son lit. Là. Fait, Jennifer, elle n'avait pas le droit de socialiser avec les gars, encore moins de les fréquenter. Okay. Jennifer, là, depuis qu'elle a présenté le faux bulletin à son père, ben, elle a continué de faire ça, là, tout son secondaire. À la fin du secondaire, elle n'avait même pas les notes pour graduer de l'école. Okay. Elle n'avait pas son diplôme d'études secondaires.
Ça, c'est plus dur à cacher.
Mais non, parce qu'elle a encore forgé son bulletin. C'est pas comme no aujourd'hui, shit. Maintenant, tout est envoyé électroniquement. Tu peux plus faire ça, mais là, par papier, elle a forgé. Ouais.
Elle a forgé un diplôme?
Oui. Oui.
Puis j'imagine ses parents étaient quoi, pas intéressés d'aller à sa...
graduation?
Exact.
Là, j'ai pas les détails pour cette graduation-là, mais on va parler de la graduation universitaire tantôt.
Okay.
Fait que là, son école est terminée, son secondaire est terminé, alors elle doit aller à l'université. Ailleurs, au Canada, il n'y a pas de cégep. Si tu finis un an de plus au secondaire, puis tu vas directement à l'université. Okay?
Hell fait yeah, que là,
Mais elle n'allait pas aller à l'université pour vrai. Ça ne l'intéressait pas. Elle n'avait pas les notes pour. Elle n'avait pas son secondaire. Fait qu'elle a trouvé quelqu'un en ligne. Dans le fond, Daniel, qui est un peu bad boy, il avait aussi des contacts pour bien d'autres affaires. Il a essayé de trouver quelqu'un qui pouvait l'aider à forger des documents. Elle a montré une fausse lettre d'université pour faire croire à ses parents qu'elle avait été acceptée.
No shit!
Ouais. Son père voulait qu'elle devienne pharmacienne, puis elle voulait pas le contredire. En fait, au début, il se disait « je veux que ma fille soit médecin », mais il a vu qu'elle avait pas... Ben, selon ses dires, là, il s'est aperçu qu'elle avait pas le corps pour ça, là, qu'elle était pas faite pour ça, qu'elle était pas assez forte pour être médecin. Fait qu'il s'est dit « elle va être pharmacienne ».
C'est des longues, longues heures de fucking travail de débile.
Mm-hmm.
I mean, je veux pas dire que pharmacienne, c'est pas une job qui est difficile, mais I mean, c'est un peu moins stressant.
Mais il y a ça, mais aussi, je pense que, dans le fond, ce que j'essaie de dire, c'est que, tu sais, pour être médecin, mettons, si tu vas être chirurgien, puis tout ça, faut quand même que tu vois des choses...
Terribles.
Ouais, c'est ça. Puis, c'est pas tout le monde qui est à l'aise d'avoir du sang, puis avoir ces sortes de textures-là. Mettons que tu fais une césarienne, là, ouvrir les couches de peau, puis tout ça, tu sais, puis les muscles, c'est quand même... Fait que c'est dit, elle a pas le cœur pour ça. Pharmacien, ça demande beaucoup d'études, puis beaucoup de connaissances, puis beaucoup de par cœur, beaucoup d'études.
Mm-hmm.
Là, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est ça, c'est pas, mettons... Tu vois pas des choses aussi graphiques, je pense. Mais comme je dis, je ne suis pas pharmacienne. Puis c'est pas non plus, je suis pas en train non plus de dire qu'un métier est mieux qu'un autre. C'est juste la comparaison des deux. Là. Opération cœur ouvert, je pense que c'est plus dégoûtant que de connaître toutes les composantes d'un certain médicament. Là. Mais c'est beaucoup, tu sais, faut que tu saches. Parce que tu sais, il y a des mix super dangereux. Là.
La fin de l'histoire, c'est que Jennifer est devenue un super lâche. Motée, puis elle n'est pas faite pour ça.
Ben oui, c'est ça. Mais en fait, c'est ça, elle n'est pas faite pour être médecin, puis le fait que là, elle va faussement devenir pharmacienne, elle va faire croire à son père qu'elle devient pharmacienne comme il le veut. Elle voulait pas être pharmacienne non plus, mais bon, ses parents, ils allaient la porter à l'université chaque jour. Puis là, elle passait des heures dans la bibliothèque à faire semblant d'être une étudiante. Au lieu d'essayer de régler ses problèmes pour vrai, là, au lieu de se dire... Mais je vais peut-être étudier pour vrai pour passer mon école secondaire. Elle était bonne dans les mensonges. J'aurais pu mentir à ses parents puis aller aux adultes finir son secondaire, whatever.
Non, mais Chris, continue la farce.
Elle allait perdre son temps pendant des heures à la bibliothèque à faire semblant qu'elle était une étudiante. Elle ramenait même des livres à la maison puis elle faisait semblant d'étudier. Elle avait des cahiers de notes, elle avait pris des fausses notes, elle avait surligné plein de passages dans ses livres. Elle parlait à ses parents de certains de ses professeurs de quoi elle avait parlé.
Ça serait juste plus facile de faire tes colis d'études.
Que d'étudier à mentir, finalement, à passer ses journées à se préparer à ce qu'elle allait dire à ses parents, là, ouais, à ce qu'elle allait dire à ses parents le soir.
Au moins, ton conscience serait nette et propre, là.
C'est vraiment effrayant de penser à quel point elle avait aucun problème à mentir, puis elle était bonne, là. Puis là... Quand je te dis, tu sais, tantôt, Jennifer, elle va commencer à mentir là, puis qu'elle va mentir pendant des années, là, il y a 4 ans qui sont passés, 4 ans de bac, puis son bac, il est fini maintenant, là.
My God, Jennifer!
Ça fait 4 ans qu'elle ment sur ses études, puis en passant, elle sort toujours avec Daniel, là. Elle avait réussi à convaincre ses... Ah, OK, écoute ça. Dans le fond, là, elle avait pas le droit d'habiter sur le campus... pendant qu'elle faisait ses études. Son frère, Félix, lui, étudiait pour devenir ingénieur, puis il habitait sur le campus. Là. Il n'y avait pas les mêmes restrictions que sa sœur. Mais Jennifer, elle n'avait pas le droit. Mais à un moment donné, on a parlé du trafic à Toronto tantôt, là, de Markham jusqu'à Toronto. Elle a réussi à convaincre ses parents d'aller vivre chez une amie pas loin de l'université. Fait que ça ferait plus de sens, justement, parce que ben, ça serait moins long, ça sauverait du temps. Puis elle pouvait se concentrer plus sur ses études, moins passer de temps dans le trafic, c'est ça qu'elle disait. Là.
Mm-hmm.
Fait que pendant la semaine, ses parents lui avaient autorisé de rester chez une de ses amies, mais c'est pas vrai qu'elle faisait ça. Elle restait chez Daniel, avec son chum Daniel, puis elle travaillait au Boston Pizza où lui était gérant. BP!
Shout out BP! Aussi très fâché qu'ils ont fermé la BP au Galerie d'Anjou.
C'est notre spot.
Fuck you.
C'est pour faire une station de métro.
I don't give a fuck.
On n'a plus de Boston Pizza.
Ma fille demande le bébé.
Ma fille demande le bébé.
Bébé.
Ah, OK.
Boston Pizza.
Ouais, c'était notre petit restaurant, genre, quoi, de milieu de semaine, qu'on y allait de temps en temps. Qu'on y allait le temps. Voyons, je vais te dire, qu'on y allait de temps en temps. Pas trop cher. Comfort food, tu sais, quelque chose de réconfortant. Tu savais que ça allait être bon.
Oui.
Ils drinkent pas
bien,
cher.
Bien équipé pour recevoir un bébé.
Puis les images, c'est ça, les menus pour enfants, ils ont des images, fait que c'était le fun pour elle. Puis il y avait tout le temps sa crème glacée. Puis elle pouvait choisir ses garnitures sur sa crème glacée.
Oh, qu'elle avait du fun, là. Elle pointait sa favorite. Ça changeait de temps en temps. Oh, c'était super. Shout out BP.
Fait que je disais que c'était la fin de son bac, entre guillemets. Puis évidemment, Han et Bic voulaient aller à la cérémonie de remise des diplômes à la graduation. C'est ça qu'on parlait tantôt. Mais là, Jennifer, elle a inventé une histoire pour pas qu'ils viennent, parce qu'elle graduait pas pour vrai, évidemment. Bon, elle leur avait dit qu'il y avait plus de billets, là, parce que c'était pris trop tard. Puis aussi, elle a même été jusqu'à dire que je peux pas vous montrer des photos de la graduation parce que mon ami qui les a prises est parti là, en Chine ou en Asie quelque part, je me rappelle plus, il me semble que c'était en Chine, avait, sans m'avoir donné des photos. Fait que tu sais. Puis là, à un moment donné, elle a dit qu'elle avait commencé à faire du bénévolat dans un hôpital. Mais c'est là que les parents ont commencé à avoir des doutes parce que Jennifer faisait du bénévolat dans un hôpital toute la journée, mettons, ce qui n'était pas vrai. Mais elle revenait jamais en uniforme. Genre, ils voyaient jamais d'uniforme non plus dans la maison d'hôpital. Là. Un moment donné, ils ont décidé d'appeler l'ami de Jennifer avec qui elle restait supposément près d'université. Puis quand ils l'ont appelée, la fille, elle savait pas de quoi ils parlaient. T'sais, elle avait même pas essayé de dire à la fille, « Hey, en passant, si mes parents t'appellent ou whatever. » Un moment donné, ils ont confronté Jennifer avec tout ça. Puis elle a fini par tout avouer à ses parents. Mais c'est tout, là. Imagine comment elle devait être en tabarnak.
Oh, shit.
Genre, j'ai pas été à l'université pantoute depuis ça fait 4 ans que je vous broute de la merde, là. D'en face, que je vous dis. Puis ils ont dû repenser à toutes les fois qu'ils ont parlé avec de « Hey, comment c'était ton cours aujourd'hui? »
Super.
Mais c'est parce qu'elle donnait des détails. Comme je te dis, elle parlait de ses profs, de quoi ils ont parlé. Elle leur montrait ses livres. Tu sais, elle a vraiment...
My God!
Fait que là, son père lui a donné 2 choix. C'est ça que tu quittes la maison, OK? Mais t'es effacé de la famille, t'existes plus. Là. Genre, je te shunne.
OK.
Sinon, ben, tu restes avec nous autres, mais tu vas obéir aux règles les plus strictes de ta vie, ma fille. Genre, t'as plus de téléphone, t'as un couvre-feu. Tu peux juste sortir pour donner tes cours de piano. C'est tout. Puis là, Jennifer était rendue à 24 ans.
Ça, c'est clairement non.
Elle n'avait plus le droit de prendre la voiture familiale. Elle pouvait le faire avant, de temps à autre, pour aller donner ses cours, mais son père, il calculait le nombre de kilomètres de la voiture que la voiture avait parcouru, puis comparé avec ce que Jennifer avait fait. Fait que ça faisait un petit crise de détour, il le savait, là. T'sais.
I mean, c'est des conditions de prisonnier, là.
Mais elle a décidé de rester dans leur maison, finalement. À 24 ans. 24 ans. T'es quasiment à la mi-vingtaine, là. T'es capable de prendre tes propres décisions. Je sais que se faire rejeter par sa famille, ça doit pas être facile, mais en même temps, je me dis peut-être qu'au fil des années, ses parents, ils auraient voulu lui reparler, tu sais, le temps arrange les choses. En même temps, Chris, ils ont de quoi être furieux contre elle, là. Depuis qu'elle a 16 ans, qu'elle ment. Qu'elle mentir, mettons, une fois à 16 ans sur un bulletin, c'est une chose. Mais continuer de le faire jusqu'à 24 ans, il n'y a pas un moment dans le processus qu'elle s'est dit à un moment donné, « Bon, ben là, c'est assez. » Tu sais, je veux...
Mais j'imagine que tout ce temps-là qu'elle elle mentait, que ses parents la supportaient financièrement.
Ben oui.
So, si il la coupe de la famille, boum.
Ouais. C'est sûr que ça a dû peser dans la décision. Ça, c'est certain.
Parce que là, il faut qu'elle travaille pour vrai, là.
Ouais. Non, ça, c'est certain que ça a pesé dans son choix. Fait que là, elle décide de rester chez ses parents. Elle coupe les ponts avec Daniel. Elle n'a pas le choix parce que, de toute manière, elle n'a plus le droit à son téléphone. Pendant 2 ans, deux ans, pareil, là. Jennifer, a, là, tantôt, j'ai dit que Jennifer était rendue à 24 ans. Quand ça s'est arrivé, elle avait 22. Puis là, les deux ans plus tard, elle a 24 ans. OK? Mm-hmm. Fait qu'elle a deux ans. Elle a vraiment respecté les règles strictes de ses parents. Elle n'avait pas son téléphone. Mais un moment donné, après deux ans, quand même pris... Je répète, je sais, là. Deux ans, c'est long. Puis après deux fucking années de, la, de faire subir des règles comme ça, les parents ont fait « OK, là, on peut commencer à te donner un peu de lousse. » Deux fucking ans, là.
Deux ans.
Pas une semaine,
non,
là.
Non, c'est pénible, là.
Fait que lui redonne son téléphone. C'est ça, ils ont dit « on va lui redonner un petit peu de liberté, son téléphone. » Puis presque tout de suite, qu'est-ce que tu penses qu'elle a fait, Jennifer?
No way! No way!
Presque tout de suite.
Okay. Tout de suite, elle saute sur sa bad boy!
Elle rappelle. Mais là, lui, il dit qu'il a maintenant une copine. Mais Jennifer, elle essaie de le séduire quand même.
Séduire?
Seduce.
Oh, salace.
Avec son téléphone, Jennifer, elle a aussi renoué avec un ancien ami du secondaire avec qui elle s'était confiée que ses parents la rendaient folle. Elle n'en pouvait plus. En même temps, je peux comprendre. Là. Cet ami-là, de manière bien banale, il a dit « Ben, je te comprends. J'ai déjà pensé que si mes parents étaient morts, je serais mieux. »
M'excuse. Le what? Le fuck?
Mais ces paroles-là vont tellement rester gravées dans la tête de Jennifer, là. Si mes parents sont morts, je vais me sentir mieux. Mes parents sont morts. OK. Puis lui, il avait dit ça de manière banale. Tu sais, ben oui, là, je serais mieux. En tout cas, mais c'est pas quelque chose, c'est pas un sujet qui est banal, mais tu sais, il disait pas ça dans le sens de j'ai développé un plan pour tuer mes parents. Anyway, fait que c'est resté gravé dans sa tête. Puis pas longtemps après, elle a demandé à Daniel, le bad boy, s'il connaissait un tueur à gages. Puis le pire, c'est que il connaissait vraiment beaucoup de mauvaises personnes, fait qu'il a été capable de rapidement mettre Jennifer en contact avec Lanford Crawford, qui est un gars qui était prêt à tout pour gagner de l'argent.
Oh, no shit.
Le 8 novembre 2010.
Un homme tout faire.
Un homme à tout faire, moi.
Yeah.
Puis là, il l'a mis en contact avec lui, mais c'est pas juste lui qui va... C'est lui comme le principal, mais il y a aussi David Milvaganam puis Eric Cardi. OK, ces trois personnes-là avec Daniel Wong vont aider finalement Jennifer à faire ce qu'elle veut faire.
T'es-tu sûr que Vaganam n'est pas Vonham?
Milvaganam.
Vaganam? C'est pas Vonham?
Non, c'est vraiment M-Y-L-V-A-G-A-N-A-M.
Wouh!
C'est ça.
M'excuse.
Non, non, non. Fait que, bon. Je disais que le 8 novembre 2010, Jennifer descend dire bonne nuit à sa mère, puis elle en profite pour débarrer la porte d'entrée. Genre, tu sais, la porte est barrée.
Mm-hmm.
Puis là, elle a fait exprès de descendre dire bonne nuit à sa mère, puis elle débarre la porte.
Mm-hmm.
Elle sait ce qui s'en vient. Elle monte ensuite dans sa chambre pour faire semblant d'étudier.
No shit. La sneaky bitch.
Elle donne le signal. C'est fucking freakant parce que tu le vois sur les caméras des voisins, les caméras de surveillance des voisins. Tu vois qu'elle rentre dans sa chambre, puis qu'elle ouvre, qu'elle ferme la lumière. Qu'elle allume, qu'elle ferme la lumière.
No way! Oh my God!
Les gars, ils attendaient sur le trottoir, puis quand ils ont vu le signal que okay, la porte est débarrée, ils sont rentrés.
L'affaire la plus préméditée qu'on a jamais parlé dans le podcast. Oh my God.
Non, c'est pas vrai ce que tu dis là, mais c'est très prémédité. Bon, fait que Lanford et ses deux autres amis, ils arrivent. Il y a un dans... En fait, non, c'est pas vrai, c'est Lanford puis David qui rentrent. Il y a un d'entre eux qui attache Jennifer sur le garde. Ils emmènent les deux parents au sous-sol, ils couvrent leur tête avec des draps.
Mm.
Bic se fait tirer trois fois dans la tête.
Holy shit!
Anne dans le visage puis dans l'épaule. Jennifer appelle le 911. Puis là, je ne vous fais pas entendre l'appel. Je vais mettre le lien pour que vous puissiez aller l'entendre. Ça se fait, mais c'est vrai. Juste faire un petit trigger warning parce que l'appel est vraiment poignant. Puis ce qui est poignant, c'est oui, OK, il y a Jennifer qui Mais on le sait, nous autres, là, qu'elle fake ça. Mais c'est parce que le père, il est pas mort.
Holy shit!
Puis pendant l'appel, t'entends le père hurler puis crisser son camp dehors. Il vient de voir sa femme se faire tuer. Lui, il vient de se faire tirer des balles. Puis t'entends le cri qu'il fait. C'est pas un cri que t'es habitué d'entendre, tu comprends?
Non, il est tiré dans son face, Jennifer.
Puis sa femme morte à côté. Fait que, tu sais, c'est, quand je dis que c'est poignant, là, c'est vraiment les cris que t'entends derrière, c'est vraiment les cris de quelqu'un en grosse détresse, des cris de mort, là. Fait que c'est pour ça que je le fais pas écouter, en fait. Fait que ceux qui veulent l'écouter, allez-y.
Yeah, non, merci pour pas inclure ça dans le podcast, parce que fucking j'ai pas besoin de ça avant de dormir, merci.
Inclure.
Cool.
Pourquoi il est sorti dehors aussi? T'sais? Pourquoi il n'est pas allé voir si sa fille était correcte? Mais c'est parce qu'il avait vu...
Il pensait que toute son famille était morte?
Non, il avait vu que sa fille avait l'air de connivence en parlant bien relax avec les gars dans la maison, tu sais.
No shit. Holy fuck.
Fait que là, les secours y arrivent. Bic est décédé. Anne y est mise dans un coma artificiel. Jennifer, qui à ce moment-là est traitée comme une victime, se fait questionner au poste de police. Les policiers commencent doucement à trouver son histoire douteuse parce qu'ils se demandent ben, comment t'as réussi à téléphoner les urgences si t'étais attaché contre le garde. Mmh. Ils vont même lui demander de simuler le moment. Là. Jennifer a l'air d'un enfant dans la salle d'interrogatoire. Je te montrerai ça. Elle a l'air super jeune. Puis elle parle. Là, quand elle parle, ça fait pitié. Si tu le sais pas, elle fait pitié quand elle parle. Là. Elle parle vraiment pas fort. Puis elle a une petite voix. En tout cas, elle a pas l'air d'une fille de 24 ans. Elle se fait interroger pendant des jours et des jours, puis là, ben c'est sûr que plus elle parle, hein, plus il y a des détails qui changent à chaque fois. Au départ, par exemple, elle avait dit aux enquêteurs qu'elle avait été épargnée parce que les policiers disaient « Mais pourquoi ils t'ont sauvé, toi? » Tu sais, elle dit « Je pense que c'est parce que je coopérais. » Elle dit « Moi, je leur ai donné de l'argent, je leur ai donné 2 000 $, plus l'argent qui était dans le coffre-fort. » Parce que dans la maison, il y avait un coffre-fort. Mais dans une autre version, elle dit « Mais il y a juste ses parents qui avaient accès au coffre-fort. » Fait que, OK, tantôt, t'as dit qu'il y a juste tes parents qui avaient accès au coffre-fort. Pourquoi t'as ouvert le coffre-fort? Combien d'argent qu'il y avait dans le coffre-fort? Tu sais, puis là, ça concordait pas tout le temps. Il y avait des petites différences, là, que... Comme crime, tu as-tu donné de l'argent dans le coffre-fort ou pas, là? Tu sais? Puis les policiers aussi, dans la maison, ils ont trouvé de l'argent qui traînait. Les deux voitures de luxe étaient encore là. Fait que si le but de l'invasion, c'était de partir avec de l'argent, pourquoi ils en auraient laissé sur les lieux? Pourquoi ils n'auraient pas pris les bijoux dans la maison? Pourquoi les voitures sont encore là?
C'est ça. Tout est louche, là.
Fait que là, ça fait 4 jours que Jennifer se fait interroger sans cesse. Puis le 4e jour, son père se réveille de son coma. Miraculeusement, Han Pan a survécu.
Puis j'imagine qu'il y a beaucoup à dire.
Mais il est très amoché, mais la première chose qu'il dit, c'est qu'il veut pas voir sa fille. Parce qu'au départ, elle allait le voir avec son frère, Félix, là, son père, à l'hôpital. Il dit qu'il l'a vu parler au criminel le soir dans l'incident. Fait que là, c'est sûr que les policiers vont se faire un plaisir de dire ça à Jennifer. Là. Hey, by the way, bitch, ton père vient de se réveiller, puis il nous l'a dit. Pourquoi est-ce que t'étais pas attaché? Que... Bon, je vais en reparler plus tard. Oui, elle va finir par se faire attacher, mais c'était comme pour créer une mise en scène, finalement, là, à la fin, avant que les policiers arrivent. Là. Jennifer, elle niait encore tout, OK? Mais là, un moment donné, à force de voir toutes les preuves qui montaient contre elle, elle a fini par dire « OK, j'ai engagé des tueurs à gages, mais c'était pour me tuer, moi. J'étais pas game de me suicider. Fait qu'elle était supposée rentrer dans la maison pour la tuer, elle. » On s'entend qu'il n'y a personne qui a écrit cette histoire-là. Puis surtout que.
Non!
C'est ça que les policiers disaient à Jennifer. C'est comme, OK, là, je viens de voir que tu viens de m'avouer finalement que tout ce que tu me dis, c'était des mensonges. Qu'est-ce qui me dit que ça, c'est pas encore un mensonge? Surtout quand on connaît ton historique de mensonges, que ça fait depuis que tu as 16 ans, même probablement avant que tu mens à tes parents, puis des grosses menteries. Là, c'est comme, pourquoi là, je te croirais? Là? Aussi, ben, y a Daniel Wong qui s'est fait interroger de son côté. Puis clairement, les deux, là, ils ne s'étaient pas parlé avant pour se dire qu'est-ce qu'il allait dire aux policiers parce que lui, il a confirmé qu'elle lui avait demandé de trouver des gars pour tuer sa famille. C'était ça le plan initial.
Oh my God!
Fait que Jennifer, elle a orchestré tout ça pour être libre. Puis surtout pour être en mesure de retrouver son amoureux Daniel Wong, qui lui avait aussi clairement dit qu'il y avait une nouvelle blonde, by the way. Là.
Mm-hmm.
Elle aurait pu juste, à 24 ans, quitter la maison familiale. C'est sûr que ses parents... ignorait, puis faisait comme si elle n'existait plus. L'héritage qu'elle aurait reçu... Sorry. Pardon. Et c'est ça, faut dire que l'héritage qu'elle aurait reçu si ses parents mouraient, c'était un maudit bon montant, genre un demi-million, là. Fait que l'argent a joué un rôle dans cette décision-là de pourquoi elle n'est pas partie, puis pourquoi, malheureusement, elle a décidé de prendre cette décision-là. C'est genre, OK, si mes parents meurent, ben déjà, j'ai plus... J'ai ma liberté, puis j'ai de l'argent. Parce qu'on se rappelle que elle ne peut pas avoir une bonne job, là. Elle n'a même pas son diplôme d'études secondaires. Je veux dire... Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de bonne job, mais les jobs qu'elle va se trouver, elle va travailler fort, ben, ça sera pas payé fort, là. Tu sais, quand t'as pas de diplôme d'études secondaires, là, à moins que tu sois vraiment quelqu'un de super talentueux dans ton domaine, là, mais tu sais, on s'entend que c'est rare, là. Mmh. En cours, il y a des avocats, un des avocats qui a dit, ça m'a vraiment marqué, au lieu de décevoir ses parents, Jennifer a décidé de les tuer. Plusieurs messages textes écrits entre les criminels puis Jennifer qui ont été lus en cours, puis c'est clair, net et précis que l'intention de Jennifer, c'était de tuer ses parents.
Ouh, oui.
Le père, Han, témoigne contre sa fille en cours. Il l'a vu parler avec les gars. Ben, il relaxe tout le long de l'invasion. Elle n'était pas attachée. Je l'ai dit tantôt, les criminels l'ont attachée juste avant de partir pour faire une mise en scène pour quand les secours allaient arriver.
Mm-hmm.
Han Pan s'est adressé à la cour, puis son message brisait le cœur. Il prend la peine de lire le texte qu'il a écrit en regardant les gens dans la salle, mais il n'a jamais, jamais mis les yeux sur sa fille. Elle n'existe plus pour lui. Puis ce texte-là, j'ai comme des frissons, là, juste à... Quand j'ai perdu ma femme, je me suis sentie comme si j'étais mort, moi aussi. Elle me connaissait mieux que quiconque. Je suis triste, puis je me sens seule sans elle.
Mmh.
Sa priorité, c'était ses enfants. Elle a mis de côté son rêve pour eux. Elle va jamais retourner au Vietnam. J'ai perdu tout intérêt. Je m'ennuie. Je suis plus capable d'écouter de la musique parce que ça me fait penser à elle. J'attends le jour où je retrouverai ma femme. Je suis pognée à vivre dans ma maison qui me rappelle elle tous les jours. Mais je sais que je peux pas la vendre parce que j'habite dans un quartier chinois qui est rempli de superstitions. Il n'y a personne qui va vouloir acheter une maison dans laquelle il y a quelqu'un qui a été tué. Il se sent prisonnier. Il est clairement dépressif. Puis ça, il parle de ses émotions, puis il dit tout ça. Puis je te rappelle qu'on parle d'un Vietnamien qui est né dans les années 40-50, là, qui est habitué de ne pas parler d'aucune émotion. Là.
Mm-hmm.
Fait que son message, c'était poignant. Il a perdu la femme de sa vie. Puis il l'a pas juste perdu, il l'a vu mourir. Puis c'est sa fucking fille
qui l'a orchestré tout ça.
Ouais. Eric Carty, un des gars qui a fait partie du plan, mais il était pas là sur les lieux le soir du meurtre, il a aidé à orchestrer le tout. Il a reçu une sentence de 18 ans de prison. Lanford Crawford, David Milvaganam, puis Daniel Wong et Jennifer Pan ont eu la même sentence. Ils ont été reconnus coupables de meurtre au premier degré et tentative de meurtre pour Han Pan, le père. Tout le monde a reçu prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle dans 25 ans. Bien que Daniel n'ait pas été présent sur les lieux le soir du meurtre, il a participé activement à l'élaboration de ce terrible plan. Juste l'année passée, en 2023, les avocats de Jennifer y ont fait une demande d'appel qui a été acceptée. Ça veut dire qu'elle va avoir le droit à un nouveau procès dans un futur proche.
OK.
Lors de son premier procès, le juge y aurait indiqué aux membres du jury qu'il y avait une seule option, puis c'était un meurtre au premier degré. C'était juste ça qui était envisageable. Fait que ça serait une faute, selon les avocats de Jennifer. Ils n'ont pas pu considérer le deuxième degré ou homicide involontaire. Oui, elle voulait la mort de ses parents, mais c'est pas elle qui a tiré. Là, je suis pas en train de dire que ça pourrait être un débat, parler de ça, mais ils ont tous eu la même sentence, même le gars qui a tiré. Tu sais. Y a pas de date prévue pour le nouveau procès. Jennifer Pan, en ce moment, elle purge une peine au Grand Valley Institution for Women à Kitchener, en Ontario. Il n'y a aucun membre de sa famille qui est allé la voir depuis qu'elle est là. Elle pourrit vraiment tout seule dans sa cellule.
Oui.
Elle n'existe plus pour personne de sa famille. C'était ça mon histoire d'aujourd'hui.
Holy shit, Jennifer.
Je te lis mes sources.
Oui.
All that's internet. blah. All that's interesting. sunnycommunities.com, culturalatlas.sbs.com. Le livre Deadly Betrayal, The True Story of Jennifer Penn, Daughter from Hell by Alan R. Warren. Toronto.ctvnews.ca, Toronto Sun, GCS Criminal Psychology on YouTube, This is Monster sur YouTube, Murder with My Husband. J'avais entendu cette histoire-là il y a bien des années dans ce podcast-là, justement. True Crime Daily, puis d'autres articles de Toronto Sun. Voilà.
Merci, Jennifer. Terrible.
Ouais. Dites-nous comment on pourrait célébrer les 5000 abonnés de notre page Facebook. Moi, j'avais envie qu'on se rassemble quelque part à Montréal. Je sais, c'est pas tout le monde qui va pouvoir être là. Au pire, on peut se faire une soirée live aussi. Tu sais, on a fait... Là, je parle, j'ai plein d'idées, là. Premièrement, M. Carl Nervin, on est dû pour un live sur Patreon. Je m'excuse, mais là, ça fait plusieurs mois. Faut faire un live sur Patreon, ne serait-ce qu'enregistrer un épisode régulier. Mm-hmm. Je m'en fous, je veux aller plus souvent en live sur Patreon. Vous êtes témoin que je l'ai dit, je lui demande souvent. Fait que là, je vous ai pas oublié. Hein? On fait des lives sur Patreon plus souvent. Mais ça, je m'amène à ça parce que je voulais dire peut-être qu'on pourrait faire un petit live avec le groupe Facebook. Je sais pas si ça se fait, j'ai aucune idée.
On peut faire un live sur YouTube pour tout le monde.
Tu sais, pour célébrer nos 5000 abonnés.
Un live sur YouTube pour tout le monde.
Pour être ça. Fait que là, tout le monde, on n'a pas besoin de sortir. On est en confort dans notre pyjama. On se fait un petit masque, un petit girls' night. Les gars sont invités tout le temps dans les girls' night. C'est encore mieux si tu te fais un masque. Tu sais, un petit masque de... Colin, il aime ça qu'on se fait des masques. Fait que,
Treat yourself.
Treat yourself. Joyeux sport, gang. Même si vous ne célébrez pas le petit Jésus, je vous souhaite de... manger du chocolat. De mon côté, je fête Pâques pour le chocolat et les moments en famille.
Oui, puis...
Première fondue au chocolat, la petite, on fait ça. Elle n'a pas mangé de fondue au chocolat encore.
Non, c'est sûr. Oh,
elle va aimer ça.
Oh, ça va être bon.
Ça va faire du dégât.
OK. All right, j'ai faim. Bye-bye.
Bye.